Présent, Cédric Decoeur, toujours la baisse.
C'est Vincent Bezeau, Claire, et la tendance reste la même. La victoire du non au référendum ne provoque pas de grand remous à Paris, puisque le CAC 40 ne cède que 0,21% à 4123 points dans des volumes de 830 millions d'euros. Il est tout de même à souligner que si le marché parisien ne connaît pas de grosses turbulences, il s'inscrit à contre-courant de la tendance en Europe, l'Euro First 80, l'indice de référence de la zone euro, avançant de 0,19%. Côté devise, eh bien l'euro se déprécie de 0,55% à 1,2483. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 418,25$. Le CAC 40 lui abandonne maintenant 0,22% à 4122 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h04 sur France Inter. Patrice Gélinet, bonjour, c'est 2000 ans d'histoire.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui avec un grand témoin, Pierre Dex, Aragon et le Parti communiste. Je ne suis pas le personnage que vous m'imposez d'être ou d'avoir été. J'ai gâché ma vie et c'est tout. Louis Aragon, Les Lettres françaises, 11 octobre 1972. D'histoire. Aucun écrivain français du XXe siècle ne se sera autant ni aussi longtemps engagé dans un parti politique. Entré au Parti communiste en 1927, Louis Aragon lui est resté fidèle pendant plus de 50 ans, pour le meilleur et pour le pire, et au point de mettre une des plus belles œuvres littéraires de son siècle au service d'une cause dont il n'a vu que la grandeur quand elle luttait contre le fascisme et dans la résistance, mais en fermant les yeux sur tous les crimes qu'elle a pu commettre à l'époque stalinienne. Notre seul désir, disait-il en 1930 en URSS, est de travailler de la façon la plus efficace, suivant les directives du parti, à la discipline et au contrôle duquel nous nous engageons à soumettre notre activité littéraire. Cet engagement incroyable de la part d'un écrivain, Louis Aragon le tiendra jusqu'à la fin de sa vie, en niant la réalité d'un parti communiste qui, à l'époque de Georges Marchais en France et de Brejnev en Russie, restait, quoi qu'il en dise, un des moins démocratiques et un des plus sclérosés du monde.
Ce parti m'a toujours étonné par la capacité qu'il a de muer, de changer, de se corriger lui-même. Et les 46 années que j'y ai passées m'ont permis d'y voir comme nulle part ailleurs, dans aucun autre parti français, se développer le respect de la science, de l'art, de la littérature, c'est-à-dire le respect croissant du travail intellectuel. De cela, plus que de n'importe quoi d'autre, j'aurais été pour l'essentiel de ma vie le témoin.
Pierre Dex, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était Aragon parlant du Parti communiste en 1973. Aragon, dont vous avez été le plus proche collaborateur pendant 25 ans et sur lequel vous apportez des éléments nouveaux dans la troisième édition de la biographie que vous lui avez consacrée et qui vient d'être publiée chez Talendier. Un homme finalement qui se faisait beaucoup moins d'illusions sur son engagement politique et auprès du Parti communiste qu'on le croit souvent.
Bien sûr, mais il avait toujours voulu faire le pari que le Parti communiste changerait et finirait par ressembler à ce qu'il attendait de lui. Il y avait toujours chez lui la contradiction entre la réalité vécue et le pari qu'il faisait sur l'avenir de ce parti. Et c'est comme ça qu'il est arrivé pendant 50 ans à trouver les angles qui lui permettaient, tout en souffrant et tout en étant déchiré, de rester fidèle.
Et vous, en trouvant de nouveaux éléments par rapport à la première biographie qui date, de, je crois, de 1975, Pierre Dex, où on voit bien que, ne serait-ce que dans ses œuvres, et notamment une œuvre qu'il a détruite en 1927, on voyait déjà que c'était un homme qui était pas aussi, qui se faisait pas autant d'illusions qu'on le croit.
Oui, mais là, c'était une autre fidélité qui était à l'épreuve. C'était sa fidélité avec le groupe surréaliste. Oui. Et, en fait, il a déjà joué avec le groupe surréaliste. Le groupe surréaliste avait des tas de d'oukases contre la participation à la littérature, contre la participation aux journaux, etc. Et Aragon a toujours dû les tourner, en ayant des difficultés très considérables avec Breton et avec le groupe. Et la principale victime a été son grand roman, La Défense de l'Infini, parce qu'il a finalement été littéralement écartelé entre le groupe et son roman. Et il a arrêté le roman, il a même voulu le détruire.
Alors les surréalistes avec lesquels il s'engage au Parti communiste, un engagement assez tardif, Pierre Dex, puisqu'en 1927, date à laquelle il y entre, il a lui-même 30 ans, le Parti communiste en a 7, et surtout, son adhésion ne coule pas de source. Il a longtemps critiqué ce parti, né en 1920 du Congrès de Tours, ou la révolution bolchevique qui parlait de Moscou la gâteuse.
Oui, mais n'oubliez pas qu'à l'origine, comme pour Breton, il y a le fait qu'ils ont été jetés dans l'écurie de la guerre de 14-18 et que pour eux, le Parti communiste était le parti contre la guerre. D'ailleurs, ils font une première incursion qui n'a pas de lendemain en 1920, mais ils se rapprochent du Parti communiste à cause de la guerre du Maroc, la guerre coloniale que la France a menée en 25, et c'est comme ça qu'ils vont trouver le chemin vers le parti.
Et puis un parti aussi qui refuse la guerre. Vous êtes le seul parti, disait-il, contre la guerre, et ça c'est déterminant. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'est un peu l'état d'esprit de beaucoup de ceux qui ont vécu la guerre, y compris d'un ami d'Aragon, ce qui peut paraître aujourd'hui surprenant puisqu'il deviendra collaborateur, et qui est Drieu La Rochelle, qui lui choisira une autre voie. Mais tous ont en commun, à cette époque-là, cette détestation de la guerre qui expliquera leurs engagements politiques, même s'ils sont totalement contradictoires.
Vous avez tout à fait raison. Et précisément, dans ma première biographie, j'avais déjà mis l'accent sur l'amitié, l'importance de l'amitié entre Drieu et lui dans les années 20, ce qui avait fait scandale à l'époque, parce que vous savez que Drieu a collaboré lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'était vrai.
Ils étaient très liés.
Et ça donne très bien l'image d'Aragon, d'ailleurs.
Alors, il entre au parti en 27, et alors là, vous dites une chose qui peut surprendre aussi, parce qu'après tout, il était un peu tiède au début. Vous dites qu'il s'est un peu accroché comme un amoureux transi à un parti, je vous cite, qui ne voulait pas de lui. En fait, c'est lui qui voulait y entrer, et le parti qui s'en méfiait. Comme il se méfiait d'ailleurs des surréalistes.
Exactement, comme il se méfiait de Breton et tout. Et vous savez, il entre dans le parti par une sorte de coup de force pour pouvoir aller au congrès de Kharkov, c'est-à-dire en 1930. Et finalement, il commencera d'être intégré dans ce parti qu'en 1932.
Alors ce congrès de Kharkov, c'est quand même assez extraordinaire. J'ai cité ce qu'il a été obligé d'y écrire et d'y dire publiquement. C'était le congrès international des écrivains, évidemment sous l'égide du régime soviétique. Et en disant donc, notre seul désir est de travailler de la façon la plus efficace suivant les directives du parti, à la discipline et au contrôle duquel nous nous engageons à soumettre notre activité littéraire. Ça c'est un acte de soumission, encore une fois, je le disais tout à l'heure, qui est insensé de la part d'un écrivain qui, en principe, est un homme libre, Pierre Dex.
Oui, mais d'abord, ils sont tombés. Personne à l'époque n'avait l'idée de ce qu'était la bureaucratie policière stalinienne vis-à-vis des écrivains. Ça, c'est la première chose. En 1930, personne ne le sait. Et la seconde chose, c'est que ça a été fait. La déclaration que vous citez a été conçue pour provoquer la crise avec les surréalistes.
Oui, Breton, ils vont se séparer avec Breton.
Parce que c'est intolérable pour Breton et pour les autres. Et d'ailleurs, ça va amener la rupture entre Breton et lui en 1932.
Alors lui, entre et puis se maintient au parti communiste, en compagnie quand même de la femme qui restera la femme de sa vie. Il y en a eu trois avant elle. Elsa, quel était son rôle dans l'engagement de Aragon?
Plus et moins qu'on ne le dit. Plus parce que elle est d'Union soviétique. C'est elle qui apporte l'idéal de l'Union soviétique, Mayakovsky, enfin toutes les relations qu'elle a et tout. Moins parce que on se rend très bien compte qu'elle ne se laisse pas prendre. Mais elle est obligée elle ne peut rien faire contre l'enthousiasme de son amant. Et mais on voit très bien que par exemple en 1936, quand les choses commencent à éclater, quand par exemple l'ami de sa sœur et jeté en prison, le général Primakov, on voit très bien qu'Elsa prend du recul par rapport à Aragon. Elle n'a pas le rôle d'incitatrice qu'on lui a prêté.
Alors lui, en revanche, n'en prend aucun. Il entre à l'Humanité par la petite porte, la rubrique des chiens écrasés. Oui. C'est dire à quel point le parti lui fait confiance. Il écrit malgré tout un texte, Oural, qui est à la gloire
de l'Union soviétique. Engagé pour l'Union
soviétique. Et puis alors, il s'engage à fond dans toutes les causes du parti, à commencer par la lutte contre le fascisme et contre Franco, du côté des républicains espagnols. On l'écoute ici dans le plus vieil enregistrement de la voix d'Aragon en 1938.
C'est parce que nous ne voulons pas voir la France avoir le sort de l'Espagne que nous pensons qu'il faut s'unir, et nous espérons, nous croyons d'ailleurs profondément, que notre exemple tout naturel, sera contagieux, et que les hommes qui ont les destinées politiques de notre pays entre les mains, le comprendront.
Tout ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux, à Grenade aujourd'hui surgit devant le cri, et cette bouche absente et l'orca qui s'étude, emplissant tout à coup l'univers de silence. Contre les violents tourne la violence, Dieu le fracas que fait un poète pontu.
Et c'était Jean Ferrat, un jour, un poème d'Aragon extrait du Fou d'Elsa, un hommage à Lorca, tué au début de la guerre d'Espagne, qui a été le premier grand engagement d'Aragon, en fait, Pierre Dex.
Oui, mais il y a une date qu'il faut retenir, parce qu'elle a été pour lui une date clé, c'est le congrès d'Arles du Parti communiste, Thorez lançant le premier appel, au-delà de tout sectarisme, à une union nationale contre le fascisme. Mmh. Et pour Aragon, ce sera toujours la clé de son engagement, aussi bien dans la résistance que toujours la référence au congrès d'Arles et à Thorez.
Alors un engagement inconditionnel, et alors qui est un engagement au Parti communiste, c'est-à-dire à l'époque, et d'ailleurs pendant longtemps, ça durera même après la guerre, un alignement sur la politique de l'Union soviétique. Or, en août 1939, elle opère un virage à 90 degrés, on assiste à cette chose apparemment incroyable, le pacte germano-soviétique, Hitler et Staline, et là, un Parti communiste qui a été traumatisé, on s'en doute. Beaucoup de gens l'ont quitté, beaucoup de communistes l'ont quitté, scandalisés que Staline et la patrie du socialisme puissent s'allier, ne serait-ce qu'un temps, avec la patrie du nazisme, avec Hitler. Et en revanche, Aragon, lui, il comprend ce pacte, en tout cas, il l'écrit.
Et écoutez, il fait un numéro de ce soir qui est saisi par la police, dans lequel il dit le pacte va faire reculer la guerre. C'est-à-dire qu'il prend le pacte germano-soviétique comme une sorte de tremplin, mais pas dans sa signification réelle. Dans mon livre, je cite une chose qui n'était pas connue alors, qui est le télégramme que Staline a envoyé au Parti communiste le 9 septembre 1939, où il leur donne l'ordre d'abandonner l'antifascisme. Or, Aragon continue à la guerre, fait la guerre courageusement, il a des décorations pour cela, c'est-à-dire il est en plein dans l'engagement national du parti, comme si rien ne s'était passé.
Entre-temps, il s'est quand même passé une chose dramatique, je crois que Paul Nizan était en même temps qu'Aragon secrétaire de la revue communiste commune, et Nizan, lui, est un des rares communistes à condamner ce pacte germano-soviétique, or il sera accusé de trahison par le parti. Quelle était la position d'Aragon à ce sujet à propos de Nizan?
On fera d'Aragon le garant de la trahison de Nizan, et jusqu'à la fin, dans sa vieillesse, quand la biographe de Nizan viendra le voir pour lui demander des explications, il se refusera à en donner. Ça a été, je crois, une des croix qu'il a portées. Il n'a jamais voulu rouvrir le dossier Nizan. Moi, j'ai voulu lui faire ouvrir à deux reprises, en 60, quand Sartre a republié Aden Arabi, et en 69, quand Jean-Jacques Brochier a fait la première biographie de Nizan, et les deux fois, Aragon a reculé.
Parce que Nizan, faut le rappeler, est mort au tout début de la guerre, oui. Au combat, près de Dunkerque, en 1940. Lui-même, Aragon, tout de suite, s'engage dans le conflit, alors que le parti est entré dans la clandestinité, il est interdit, à cause de ses positions, justement, ambiguës sur la guerre. Hein. Il met dos à dos, au fond, les démocraties et Hitler, et refuse de mobiliser ses hommes dans une guerre, que Aragon fait quand même, très courageusement, comme il a fait d'ailleurs, comme il a participé à la première. Est-ce qu'on peut parler d'acte de résistance dès le début en ce qui concerne Aragon?
Ah oui, écoutez les premiers poèmes. C'est là qu'il trouve la veine poétique qui va être la sienne pendant la résistance. Et les premiers poèmes qu'il publie dans la NRF en décembre 39 sont tout à fait des poèmes dans la ligne nationale qui va faire de lui le grand poète de la résistance. C'est-à-dire une ligne qui en fait est à 180 degrés de celle du Comintern.
Et notamment en 1943 avec ce que l'on peut considérer comme le plus beau poème peut-être de la résistance, chanté plus tard par Hélène Martin, La Rose et le Réséda.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui
qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompe pas. Et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il coule et se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. L'un court et l'autre a des ailes de Bretagne ou du Jura. Les framboises ou mirabelles, le grillon rechantera. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Dites flûte ou violoncelle, le double amour qui brûle. L'alouette et l'hirondelle, la rose et le résida. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, celui...
La rose et le réséda, Hélène Martin, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, un bel hommage là, à tous ceux qui, dans la résistance, venaient soit de la droite, soit de la gauche, et qui se sont retrouvés dans le même combat, Pierre Dex. Le rôle de ces poèmes, parce qu'on a tendance à dire, après tout, c'était jamais que des écrits, etc. Est-ce que ça joue un rôle dans la résistance, vous-même, qui avez été résistant?
Pensez, les premiers poèmes dans la NRF en 39, à l'époque, il y a le bâillon. Il y a déjà la censure militaire qui surveille tout, etc. Et le premier poème de résistance est paru dans le Figaro. En 40, vous savez bien, Pollan l'apprend par cœur, le donne au Figaro, et Aragon l'a corrigé, et tout ça dès les premiers mois de 40. Il a vraiment été l'inventeur de la poésie de la résistance, mais il a été aussi un organisateur de la résistance.
Avec la création du Comité National des Écrivains aussi.
Exactement, mais aussi les Étoiles, vous savez, cette organisation qui était vraiment en étoile, d'étoile en étoile, et qui a couvert la plupart de la zone sud. C'est donc un homme qui s'est vraiment battu.
Et qui rencontre De Gaulle au moment où la France est en train de se libérer, le 14 septembre 1944, De Gaulle qui dit à Aragon « Ah, vous voilà, vous !» Et Aragon, on le retrouve également, bien sûr, le jour de la victoire, le jour de la capitulation allemande. Écoutez-le, c'est une archive très peu connue, le 8 mai 1945, Aragon.
Quelle journée extraordinaire! Et comme dans cette journée sont présents tous les Français, non seulement cette foule incroyable de Paris, mais tous ceux qui n'y sont plus. Devant nous, nous avons toute la France des martyrs, la France des gens autour de Buchenwald. Mon Dieu, oui, il est là, mon ami Salomon. Ils ont tué au Mont-Valérien. Il est là, mon ami Politzer. Il est là, mon ami Gabriel Péri. Tout le monde est dans la rue aujourd'hui, dans la rue même ceux qui ne reviendront jamais. Et les pleurs des gens qui, sachant dans la rue aujourd'hui qu'ils sont là pour représenter les morts, ces pleurs-là sont encore des raisons d'être joyeux pour l'avenir, car devant nous il y a la France, il y a toute la France demain, avec sa grande armée, avec l'union de tous ceux qui se sont retrouvés dans le combat. Encore un peu de temps et nous serons vraiment joyeux.
Vous avez vu ému Pierre Dex forcément en écoutant cette voix d'Aragon que vous ne connaissiez pas. Vous connaissiez bien Aragon. À l'époque, vous ne le connaissiez pas parce que vous faites partie de ceux qui n'étaient pas revenus encore. Vous étiez à Mauthausen et vous avez rencontré donc Aragon ultérieurement. Vous connaissiez pas
Non, j'ai rencontré quelques jours plus tard, en juin 45. Et là, j'ai été très surpris parce que Aragon et Elsa m'ont dit qu'il n'était plus rien. Aragon avait dû démissionner de ce soir.
Mais pourquoi, enfin, tout de même? C'est ça qui était piqué par être.
Non, il a donné des raisons de santé, mais c'était simplement que beaucoup de gens dans le parti n'appréciaient pas le rôle de poète national qui était devenu le sien. Et bon, ça ne s'est pas fait par des oukases ou par des choses comme ça. Simplement, il était à l'écart de tout. Il était à l'écart des journaux du parti. Par exemple, quand, à la fin de 47, on va me parachuter à la direction des lettres françaises, il y a un directeur qui est Claude Morgan. Mais moi, je vais voir clandestinement Aragon, parce que le parti l'a déjà nommé en quelque sorte directeur des lettres françaises, mais ce n'est pas public. Et donc je vais voir Aragon clandestinement pour faire le journal sous couvert de la direction d'Aragon, même en fin 47.
Quand vous dites poète national, peut-être aussi ce qu'on n'aime pas en fait dans ce parti qui est internationaliste, c'est le côté très patriotique, on l'a entendu dans ce qu'il disait, dans ses poèmes aussi. Mais cela dit, c'est à l'ordre du jour. Le Parti communiste, il faut le rappeler, est fait partie du gouvernement du général de Gaulle. Et l'union de tous ceux qui ont combattu pendant la résistance est à l'ordre du jour à l'époque. Cela dit, ça ne va pas durer, évidemment, à partir de 1947. C'est le début de la guerre froide, et c'est un Aragon qui, évidemment, reste toujours fidèle à la ligne du parti, c'est-à-dire à la ligne de l'URSS.
Oui, mais c'est le moment où le Parti communiste va faire un tournant politique, va reprendre à son compte la ligne nationale en disant qu'il est le seul parti qui garde l'idéal de la résistance à son congrès de Strasbourg et qui fait de quelle sorte une résistance nationale à l'emprise américaine, à tout ce qui commence à provoquer la guerre froide. Et à ce moment-là, Aragon va au contraire être récupéré. Parce que le congrès de Strasbourg est en quelque sorte l'aval donné à la poésie de la résistance, à ce qu'il a fait. Et à partir de 47, comme je vous dis, il devient secrètement directeur des lettres françaises.
Donc vous étiez rédacteur
en chef. Et il va être élu membre du comité central en 1950.
Alors oui, mais c'est quand même la période stalinienne, hein, s'aligner sur l'URSS.
C'est la période stalinienne.
N'importe quelle URSS. Et là, à l'évidence, on ferme les yeux au Parti communiste, je ne sais pas, aux lettres françaises aussi, d'une certaine manière, sur les crimes de Staline, alors que on commence à les connaître, on les connaît même depuis avant la guerre, hein, ils avaient été déjà dénoncés par Victor Serge dans les années 30. Elsa, vous le disiez, savait très bien que c'était pas du tout un régime démocratique. Et puis alors, on se met à critiquer vigoureusement tous ceux qui, pour la première fois, parlent du goulag. Il y a David Rousset qui dit, mais vous savez, des camps, il y en a aussi en URSS. Il y a le dissident soviétique Kravchenko qui en révèle aussi l'existence. Et là, le parti nie ce que disent ces deux hommes.
Absolument. Mais si Aragon n'est mêlé directement ni au procès Kravchenko, ni au procès Rousset, c'est lui qui va soutenir Zhdanov. C'est-à-dire Zhdanov qui est l'épurateur en Union soviétique de tout ce qui n'est pas dans la ligne.
C'est lui qui parlait, je crois, des écrivains en disant qu'ils étaient les ingénieurs des âmes, c'est ça?
Exactement. Et il va faire l'éloge, quand Zhdanov meurt en 49. Il va faire son éloge d'une façon grandiloquente.
Ce qui est étonnant, David Rousset, ce qui est étonnant, Pierre Dex, c'est que à l'époque, on accuse, on critique et on vous critique pour avoir fait publier en 53, année de la mort de Staline, un portrait fait par Picasso de Staline, et c'était un portrait, disait une partie de la direction du parti, iconoclaste. Vous vous faites engueuler. Aragon est obligé de faire son autocritique.
Absolument, absolument, parce qu'il y a un tel culte de Staline que les militants sont habitués à voir un vieillard chenu qui joue avec des petits-enfants, et que Picasso ait osé faire un portrait du Staline jeune paraît brusquement une provocation, et Aragon est condamné. Il y a un communiqué qui condamne.
Il en a avalé des couleuvres, hein, quand même. Alors, il y a eu aussi, bien sûr, en 1956, mais là, il est très réservé sur l'attitude de l'URSS, l'écrasement de la révolte hongroise à Budapest. En 68, en revanche, il va condamner l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, mais là encore, il est dans la ligne du Parti communiste qui, effectivement, prend un petit peu ses distances, Pierre Dex.
Non, mais vous savez, maintenant, on ne se rend plus compte. Mais quand il a publié le roman inachevé en 1957, quand il publie La mise à mort en 1963, c'est un véritable coup de tonnerre, parce qu'il ouvre les dossiers de la déstalinisation.
En tout cas, il reste fidèle à un parti qui, par la voix de son chef, Georges Marchais, lui rendait hommage le jour de sa mort, la veille de Noël. France Inter, Pierre Veil, le 24 décembre 1982.
Bonjour, la mort de Louis Aragon la nuit dernière à Paris, chez lui, rue de Varennes. Il avait 85 ans, l'écrivain, le poète, le militant du Parti communiste français depuis 1927. De nombreuses personnalités se sont rendues au domicile de Louis Aragon, rue de Varennes à Paris. Ainsi, Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste français. Georges Marchais, bouleversé, au micro de Philippe Chaffanjon.
Aragon a été pour nous un conseil précieux. Je l'ai souvent rencontré. Il m'a beaucoup aidé. C'est l'un des meilleurs des nôtres, je l'ai dit, au Parti communiste. Ce parti dont il disait, dont je démissionne chaque soir et auquel je réadhère chaque matin.
Et c'était Georges Marchais, visiblement ému le jour de la mort d'Aragon, qui n'a jamais démissionné du Parti communiste, mais qui était très sceptique aussi. Je vais redonner cette citation du début de l'émission. Je ne suis pas le personnage que vous m'imposez d'être ou d'avoir été. J'ai gâché ma vie et c'est tout. Et il ajoute, c'était en 72, de cette vie gâchée qui fut la mienne, je garde pourtant un sujet d'orgueil, j'ai appris quand j'ai mal à ne pas crier. C'est très beau, mais est-ce que le rôle de l'intellectuel Pierre Dex que vous êtes, qui était Aragon, que vous avez bien connu, c'est pas de crier?
Aragon a crié. Aragon, on peut lui reprocher de s'être tu, d'avoir couvert des mensonges, d'avoir participé à des mensonges. Mais je crois que ce qui restera de lui, c'est précisément ce qu'il a crié. Quand vous regardez l'ensemble de son œuvre poétique à partir des poèmes de 39 et jusqu'à la fin, quand vous regardez les grands romans, quand il a repris sa liberté à partir de la Semaine Sainte en 1957, La Mise à Mort, Blanche ou l'Oubli, Théâtre Roman, vous avez des monuments de prose et qui sont aussi des monuments sur les drames qu'a vécu le XXe siècle, sur les tragédies qu'a vécu le XXe siècle.
Et ce qui reste, sa place dans la littérature française.
À mon avis, c'est ce qui restera de lui. C'est dans une prose inimitable.
Et en lisant en premier quoi, par exemple, Pierre Dex?
Pardon?
En lisant quoi en premier? Parce que c'est une œuvre aussi très importante.
Ah, je dirais un des livres où il s'est le plus abandonné, disons Aurélien.
Oui. Qui était le portrait, je crois, disait-il, de son ami Drieu La Rochelle, qui n'a pas suivi le...
Il y a Drieu et lui, enfin, il y a toute sa jeunesse.
Et toutes les ambiguïtés du XXe siècle.
Bien sûr.
Merci Pierre Dey. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une biographie très complète et passionnante d'Aragon. Aragon, une vie a changé, qui vient d'être réédité chez Talendier. Vous êtes également l'auteur, dans un tout autre sujet, de Bréviaire pour Mauthausen, qui vient de publier chez Gallimard, de sortir chez Gallimard dans la collection Témoins. Mauthausen, donc, qui est le camp où vous êtes trouvé pendant la guerre pour fait de résistance. À lire également Paul Nizan, puisque nous en avons parlé, Paul Nizan, Destin d'un révolté, de Pascal Horry, une biographie publiée chez Complexe. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Patrick Henry et Jessica Fouché, Claire Destacan et Claire Tessert, ainsi qu'à Anne Comilac pour la réalisation. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un sujet plusieurs fois reporté, avec Dominique Baudis, un comte de Toulouse au XIIIe siècle, Raymond le Cathare, mais tout de suite à 14h30, très précisément, le roi de la musique.